Voici une question dont la réponse sera une bonne mise en garde pour chacun de nous. Qu'est-ce qui arrive quand on refuse d'obéir au Seigneur? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et importante à retenir aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense que nos questions vont vous révéler l'importance de l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Vous allez sûrement le constater vous-même en les entendant. Donc, les voici. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité à quelqu'un quand on veut son bien? Est-ce que c'est important de prêcher la parole de Dieu en entier, sans rien retenir? Est-ce que Dieu prend plaisir à juger son peuple? Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui consultent leur pasteur uniquement pour avoir son approbation? Qu'est-ce qui arrive quand on refuse d'obéir à Dieu? Comment Dieu démontre-t-il son amour envers ses enfants quand ils se trouvent dans le malheur à cause de leur désobéissance? Qu'est-ce qui arrive quand on s'appuie sur ses propres forces plutôt que sur Dieu? Restez avec nous, on est sur le point d'entendre un enseignement essentiel pour la vie de tout croyant par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oui Seigneur, ton enseignement, ce que tu nous enseignes est essentiel pour notre vie, pour qu'on soit heureux et surtout pour que tu sois glorifié en nous. Alors bénis-nous par ta parole aujourd'hui, on veut t'écouter et on veut mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Amen. À toi Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné le chapitre qui raconte la chute de Jérusalem. Les prophéties de Jérémie se sont finalement accomplies. Désormais, la chute de Jérusalem et la captivité seront des faits historiques. Nous avons vu que Jérémie a été emprisonné. Les chefs du peuple le haïssaient, et ils l'accusaient de traîtrise et de démoraliser le peuple. Dieu a veillé sur son prophète. Sédécias l'a convoqué pour le consulter et Jérémie en a profité pour demander qu'on ne l'emprisonne plus dans la maison du secrétaire qui a été transformée en prison. Finalement, Jérusalem est tombée conformément à la parole de Dieu proclamée par Jérémie. Le roi Nebuchadnezzar a ordonné que Jérémie soit traité avec bienveillance. Sédécias a été capturé et ses fils ont été exécutés. Nebuchadnezzar a fait crever les yeux de Sédécias et l'a fait enchaîner et reconduire à Babylone. Nous avons expliqué comment ces événements démontrent que Dieu est à la fois un Dieu de colère et un Dieu d'amour. Dieu se glorifie en créant des vases de colère et des vases de miséricorde. Ainsi, il démontre à la fois sa puissance et sa miséricorde. Nous avons aussi mentionné que personne ne peut se soustraire aux lois divines. En fait, nous ne pouvons pas nous en soustraire, tout comme nous ne pouvons pas violer les lois naturelles, telles la loi de la gravité. Dans les chapitres 40 à 42, Jérémie s'adresse au reste du peuple qui est demeuré dans le pays après la destruction de Jérusalem. Nebuchadnezzar a laissé les pauvres, les aveugles, les infirmes, les boiteux dans le pays. Ainsi, qu'un autre groupe formé d'éléments criminels. Jérémie a choisi de demeurer au milieu du peuple. Dieu lui a donné un message à leur livrer. Chers amis, lisons Jérémie chapitre 40, versets 1 à 4. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut envoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Nébuchadnezzar a permis à Jérémie d'aller où bon lui semblait. Il aurait pu accompagner les captifs à Babylone, mais Jérémie a préféré demeurer dans le pays. Le roi de Babylone lui aurait sûrement accordé des privilèges, mais Jérémie n'aurait pas été capable de voir la souffrance de son peuple, un peuple qu'il aurait vu pleurer alors qu'il se souvenait de Jérusalem et de sa montagne de Sion. Jérémie n'a pas voulu accompagner les Israélites en captivité. Il l'avait rejeté. Dieu susciterait un autre prophète pour leur parler à Babylone, le prophète Ézéchiel. Jérémie a choisi de vivre parmi les pauvres qui restaient dans le pays de Juda. Si l'on veut le bien de quelqu'un, on lui dit la vérité. Qui aimait vraiment Juda? Jérémie. Qui était le vrai patriote? Jérémie. Qui avait vraiment à cœur le bien du peuple? C'était Jérémie. Cela est très évident maintenant. Jérémie les avait suppliés de se rendre à Nébuchadnezzar. S'ils avaient obéi à Dieu, et s'ils s'étaient rendus, ils auraient probablement évité la captivité. Nébuchadnezzar les aurait traités avec la même bienveillance qu'il a eue à l'égard de Jérémie. Il leur aurait probablement permis de demeurer dans le pays. Au verset 8, nous faisons la connaissance d'Ismaël qui complote afin d'assassiner Guédalia, que Nébuchadnezzar a établi gouverneur de Juda. Le chapitre 41 raconte le meurtre sanglant de Guédalia, ainsi que celui des Chaldéens et des Juifs qui l'accompagnaient. Ismaël capture la ville de Mitzpa, où était établi Guédalia, et il avait l'intention d'emmener la population de la ville en captivité dans le pays d'Ammon. Cependant, Jochanan est parti à la poursuite d'Ismaël, et il a ramené les captifs avec lui. Par contre, Jochanan craignait des représailles du roi de Babylone, puisque Guédalia, le gouverneur qu'il avait établi sur Juda, a été assassiné. Jochanan décide de se réfugier en Égypte avec le reste du peuple qui demeurait encore dans le pays. Avant leur départ pour l'Égypte, Jochanan et les chefs de l'armée consultent Jérémie. Il est intéressant de noter que le peuple se tourne vers Jérémie dans ces circonstances inhabituelles. Il a besoin de connaître ce qu'il doit faire. Devrait-il demeurer dans le pays de Juda ou se réfugier en Égypte? Lisons Jérémie 42, versets 1 à 3. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Kéréach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent. Et dirent à Jérémie, le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. » Jochanan et le peuple semblent si sincères avec cette belle prière. « Nous croirions que tous marcheraient désormais dans les voies de Dieu. » Ils promettent de suivre des directives de Dieu. Verset 4. Jérémie, le prophète, leur dit, « J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Ils sont venus vers Jérémie, car ils savaient qu'ils ne craindraient pas de leur dire la vérité. Pourquoi les églises ont-elles peu d'influence aujourd'hui? Quiconque prêche la parole de Dieu, que ce soit du haut de la chair, sur les ondes et dans les médias ou dans un parc public, ne devrait pas essayer d'impressionner les gens avec son intellect. Il devrait proclamer la parole sans chercher à dire des paroles doucereuses pour plaire aux gens. Lorsqu'un prédicateur prêche seulement les belles choses de la parole et néglige ce qui semble être négatif, il n'est qu'un abat-voix qui réfléchit vers les gens le message qu'ils veulent entendre. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Citation de 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Malheureusement, c'est le genre de prédication que nous avons dans de nombreuses églises de nos jours. C'est pour cette raison que les églises sont faibles et qu'elles n'ont plus d'influence sur la société contemporaine. L'efficacité de la parole se manifestera de nouveau lorsque nous la prêcherons entièrement, sans rien retenir, ce que faisait le prophète Jérémie. Maintenant, Jérémie fait connaître clairement la volonté de Dieu au peuple. Les versets 9 et 10. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. » Dieu dit au peuple qu'il ne continuera pas à le juger s'il suit ses instructions. Le but ultime de Dieu est de bénir le peuple, de lui faire du bien. Dieu ne prend pas plaisir à juger son peuple. Il le fait par nécessité. Versets 11 et 12. « Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. » Dieu a donné des paroles encourageantes pour le peuple, et Jérémie a transmis le message. Nous penserions que maintenant tous croiraient que Jérémie parle de la part de Dieu. En effet, Jérémie a été le seul à prédire exactement ce qui est arrivé. Cependant, Dieu sait que le peuple ne veut pas le croire, et il ajoute, versets 18 à 20, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous. Si vous allez en Égypte, vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. » Consultez-vous un pasteur pour son approbation ou pour qu'il vous guide? Les événements ne leur ont rien enseigné. Ils refusent d'obéir à Dieu et d'écouter ce que Jérémie leur dit. Dieu leur a dit de ne pas aller en Égypte. Le peuple se met donc en route pour l'Égypte. De nombreuses personnes se comportent de la même façon aujourd'hui. Elles disent à leur pasteur qu'elles le consultent pour obtenir ses conseils, mais malheur s'il ne leur dit pas ce qu'elles désirent entendre. Elles iront en voir un autre, plus ouvert ou plus compréhensif. D'autres approchent le conseil de leur église pour qu'ils jugent un différent. Mais lorsque la décision ne leur est pas favorable, ils refusent de s'y soumettre. Chers amis, nous passons maintenant au chapitre 43 du livre de Jérémie. Nous sommes rendus à la sixième et dernière section prophétique du livre. Cette section contient les prophéties que Jérémie a prononcées en Égypte. La section couvre les chapitres 43 à 51. Les chapitres 43 et 44 s'adressent au reste du peuple qui est descendu en Égypte. Débutons la lecture de Jérémie chapitre 43 en lisant les versets 1 à 3. « Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire. Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Mais c'est Baruch, fils de Nerija, qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'il nous fasse mourir ou nous emmène captifs à Babylone. C'est le même vieux refrain que nous entendons de nouveau. Jérémie est accusé de mentir et de ne pas parler au nom de Dieu. En fait, les gens n'entendent pas ce qu'ils auraient aimé entendre. Ils espéraient que Jérémie leur dirait d'aller en Égypte, mais il leur dit de demeurer dans le pays. Versets 5 à 7. Et Jochanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achicam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète et Baruch, fils de Nerija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. La désobéissance nous fait reculer. Jochanan et les chefs de l'armée forcèrent les Juifs à descendre en Égypte, y compris Jérémie et Baruch. Ils se retrouvent à Tachpanès, pas loin de leur point de départ, lorsque Dieu les a libérés de l'esclavage égyptien et que les Hébreux sont devenus une nation. Ils ont emmené Jérémie contre son gré, mais ils ne pourront pas le faire taire. Versets 8 et 9. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, à Tachpanès, en ces mots. « Prends dans ta main de grandes pierres et cache-les, en présence des Juifs, dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès. » Ils fabriquent des briques. Ils sont retournés à l'état dans lequel ils étaient avant la sortie d'Égypte. La désobéissance à Dieu ne nous fait jamais progresser dans la bonne direction. Le peuple est de retour à la case de départ. Cependant, cette fois-ci, Dieu ne les délivrera pas. Versets 10 et 11. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici. J'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, et il frappera le pays d'Égypte. À la mort ceux qui sont pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée ceux qui sont pour l'épée. Le peuple a voulu fuir Nebuchadnezzar en se réfugiant en Égypte, mais Dieu fera venir Nebuchadnezzar en Égypte, et il prendra le territoire. Leur état est plus grave que s'ils étaient restés dans le pays de Juda, comme Dieu le leur avait demandé. Ils seront de nouveau soumis à Nebuchadnezzar, et ils deviendront des esclaves en Égypte. Par amour, Dieu plaide avec son peuple jusqu'à la fin. Le chapitre 44 raconte comment le peuple a complètement rejeté Dieu pour la reine du ciel. Dieu, patiemment, une fois de plus, leur explique qu'il est responsable de l'invasion de Juda et de la destruction des villes de Juda. Lisons les versets 2 et 3 de Jérémie chapitre 44. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda? Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos pères. Dieu leur rappelle les raisons de leur condamnation. Versets 7 et 8. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Nous avons ici une démonstration de l'amour de Dieu. Il plaide encore avec le reste de son peuple afin qu'il revienne à lui. La réponse du peuple démontre la déchéance complète du cœur humain. Jérémie 44, versets 16 et 17. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. C'est ainsi que le reste du peuple a signé sa propre condamnation. Dieu a dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie chapitre 29, verset 13. Ce verset s'applique au salut et au développement d'une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Ce verset s'applique à ceux qui cherchent sincèrement la volonté de Dieu. Souvent, nous prions. Nous prions Dieu et nous consultons un pasteur ou un autre chrétien, mais nous ne sommes pas disposés à nous soumettre au Seigneur. Alors, il ne faut pas s'étonner s'il ne répond pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Citation de Jacques, chapitre 4, verset 3. Le Seigneur Jésus a dit que Dieu pourvoirait à tous nos besoins si nous cherchions premièrement son royaume et sa justice. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Souvent, nous présentons des requêtes à Dieu, et tout ce que nous avons en vue est notre avancement personnel. Nous pouvons demander des choses légitimes en soi, mais nous ne cherchons pas la gloire de Dieu. Nous voulons satisfaire nos désirs ou notre convoitise. Il est inutile de demander au Seigneur de nous diriger si nous ne sommes absolument pas intéressés à travailler à l'avancement de son royaume ou si nous ne sommes disposés qu'à lui laisser les miettes de nos biens, nos efforts, notre temps et notre énergie. Le peuple a consulté Jérémie, mais il voulait un sceau d'approbation sur son projet d'aller en Égypte. Il faisait plus confiance à Pharaon pour les sauver qu'à Dieu. Le peuple n'était absolument pas disposé à se soumettre à Dieu. Nous pratiquons souvent ce même péché aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur nos propres forces ou sur une institution humaine avant de nous appuyer sur Dieu. Un jour, un couple qui se disait chrétien a affirmé qu'il attendait une vision comme l'apôtre Paul a reçue pour aller en Macédoine pour se mettre au service du Seigneur. Ce couple n'était pas actif dans l'œuvre. En fait, je crains que si Dieu leur accordait une vision, ce couple ferait comme le prophète Jonas. Il prendrait le premier bateau, ou avion, qui se rendrait dans la direction opposée à celle de l'endroit où Dieu les appelle. Lorsque Dieu a donné une vision à Paul, celui-ci avait déjà entrepris son voyage missionnaire. Il s'était déjà mis à l'œuvre pour Dieu. Celui-ci lui a simplement donné une directive précise. La vision de l'apôtre Paul n'était pas un appel au service, mais une indication de la direction pour une personne déjà en service. Mes amis, si vous désirez servir Dieu, mais que vous ne connaissez pas sa volonté pour votre vie, commencez par vous rendre utile dans votre église locale. Vos dons se manifesteront, et vos frères et sœurs dans le Seigneur verront où vous pouvez être utile. Priez afin que le Seigneur vous dirige. Assurez-vous de rechercher sa gloire et non la vôtre à travers votre service pour lui. Le Seigneur vous guidera. Mais premièrement, il va falloir l'implorer, l'invoquer en tant que sauveur et Seigneur de votre existence, si ce n'est déjà fait. Car la première chose que Dieu veut faire avec vous, c'est vous sauver, vous libérer de votre péché. Chers amis, prochaine émission, Jérémie chapitre 45 jusqu'au chapitre 49, le verset 6. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Ce que tu viens de nous enseigner est tellement important pour chacun de nous si on veut être heureux, béni de Dieu. C'est tellement clair que tout croyant doit être obéissant envers son Dieu, ce Dieu merveilleux qui veut notre bien. Et s'il y en a parmi nos auditeurs qui n'êtes pas croyants, c'est réellement important pour vous aussi. Ma prière à Dieu, c'est qu'il vous convainque de l'importance d'obéir à Dieu. On a vraiment bien vu les conséquences dans la vie de ceux qui désobéissent à Dieu. Et si on est un enfant de Dieu, eh bien, on connaît tout ce que Dieu nous commande de faire et on sait que c'est entièrement pour notre bien et pour sa gloire. Mais toi, mon ami, toi qui, pour une raison ou pour une autre, n'as pas encore fait les pas qui mènent à la vie éternelle, il est important que tu saches que sans Jésus, tu ne pourras jamais passer l'éternité au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et j'ose croire que si tu écoutes nos émissions, c'est que tu t'intéresses à Dieu. Bien sûr, il est impossible de venir à Dieu si tu ne crois pas en Jésus. Crois-tu en lui? Il a dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il a aussi dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, mon ami, tout ce que tu as à faire, c'est premièrement de reconnaître que tu as péché. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 10 et 23, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi, crois-tu que tu as commis des péchés dans ta vie? Et deuxièmement, eh bien, tu dois comprendre que le péché doit être puni. Dans la même épître, au chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 8, on voit que le châtiment, c'est dans l'étang ardent de feu et de soufre, et que c'est cela, la séparation éternelle de Dieu, qui est la seconde mort. Et troisièmement, eh bien, reconnais que Jésus-Christ a payé la peine du péché pour toi. Dans l'Épître aux Romains encore, au chapitre 5, verset 8, il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quatrièmement, rends-toi compte que Dieu veut maintenant te donner le don de la vie éternelle. Dans la même Épître au chapitre 6, verset 23, il est écrit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cinquièmement, tu dois te repentir de tes péchés, c'est-à-dire t'en détourner et demander à Jésus de te sauver et d'entrer dans ta vie. Toujours dans la même épître, au chapitre 10, verset 13, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça s'applique à toi, mon ami. Maintenant, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour toi, dis-le-lui. Et demande-lui de te pardonner et d'être ton sauveur personnel. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et accepte qu'il soit aussi ton Seigneur, c'est-à-dire ton maître. Tu ne pourrais pas avoir un meilleur maître, un maître plus merveilleux que le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il va te demander de faire sera pour ton bien et pour sa gloire. Alors reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau, et maintenant je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.